tous et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Si le conflit entre la Russie et l'Ukraine a une dimension principalement terrestre, son aspect naval est néanmoins aussi essentiel. Et ce, même si la presse en parle assez peu, sauf à l'occasion d'événements particuliers comme la capture de l'île des Serpents au début du conflit, la disparition du Moskva, ou, bien sûr, les conséquences sur les exportations de céréales d'Ukraine et de Russie. Justement, l'un des aspects de cette guerre en mer concerne les mines et le minage des côtes, ainsi que ses conséquences pour la navigation, qu'elles soient commerciales, militaires, ou encore pour la pêche. Le danger des mines dépasse ainsi les deux belligérants et concerne tous les pays riverains de la mer Noire, dont le trafic commercial et le secteur de la pêche est ou a été affecté. Ukraine et Russie se renvoient la responsabilité de cette guerre des mines, invoquant aussi, parfois, le rôle de la météorologie, comme par exemple des tempêtes. Difficile dans ces conditions de séparer la réalité des fausses informations que l'on trouve dans tout conflit. Pour évoquer ces questions des mines en mer Noire, nous recevons aujourd'hui le contre-amiral Laveau, chef du bureau de la maîtrise des fonds marins à la Force d'Action Navale et lui-même plongeur des mineurs de formation. Bienvenue dans ECHO Amiral, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors Amiral, en quelques mots, comment peut-on résumer la situation des mines en mer Noire depuis le début de la guerre en Ukraine? Est-il possible d'estimer l'ampleur du phénomène?
Alors dans la mesure où on n'a pas accès à la mer Noire, puisque actuellement l'entrée en mer Noire est suspendue par les Turcs, dans le cadre de la convention de Montreux, on n'a pas pu évaluer précisément l'ampleur du phénomène. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'environ une trentaine de mines ont soit été neutralisées, soit ont explosé en mer Noire, qui est un littoral qui se prête tout particulièrement à la menace mine, à la pose de mine, dans la mesure où il y a la frange littorale qui est d'une profondeur d'une cinquantaine de mètres. Deux types de mines ont été retrouvées. Tout d'abord, des mines à orins. Donc les mines à orins sont des espèces de ballons qui ont une flottabilité positive, qui disposent de cornes, qui, au contact sur des bateaux, explosent. Dans un mode normal d'emploi de ces mines, elles sont normalement relayées au fond par un crapaud, c'est-à-dire un poids très lourd, et qui permet de laisser ce ballon bardé de ses cornes entre deux eaux, de telle manière qu'il explose au moment où il heurte les coques des navires. Donc quelques navires ont été touchés par ces mines, notamment des mines de commerce, mais également des bâtiments militaires, notamment un dragueur de mines roumain. Et puis, il y a eu également énormément de mines qui, normalement, étaient mouillées, qui ont dérivé. Normalement, ces mines, lorsqu'elles dérivent, doivent être neutralisées dans le cadre des conventions internationales. Or, il se trouve que certaines de ces mines n'étaient pas neutralisées, qu'elles ont explosé. D'autres ont été retrouvées par les plongeurs des mineurs ou les forces spéciales des pays riverains qui les ont neutralisées. Donc, en fait, ces mines dérivantes ont tout simplement suivi les courants maritimes de mer Noire, qui, grosso modo, suivent le littoral dans le sens trigonométrique, inverse au sens des aiguilles d'une montre. Et dans un premier temps, l'année dernière, on a retrouvé les premières mines au large de la Roumanie, au large de la Bulgarie et bien évidemment au large de l'Ukraine. Et puis au fur et à mesure, on en a retrouvé au large de la Turquie, des détroits turcs. Et tout à fait récemment, on en a retrouvé également au large de la Géorgie. Donc ça montre bien la circulation de ces mines et l'influence de l'environnement maritime. Donc ça, c'était le premier type de mine. Le deuxième type de mines, ce sont des mines anti-débarquement qui ont été disposées sur la frange littorale de très petits fonds par les Ukrainiens. Mines anti-chars, mines de contact posées sur le fond et qui empêchent le débarquement des forces.
En mouillant des mines, quel but les belligérants recherchent-ils? Pensez-vous qu'elles aient pu empêcher un débarquement justement sur les côtes ukrainiennes?
Très clairement, c'est probablement l'objectif des Ukrainiens, c'est-à-dire réaliser un minage défensif le long de leurs côtes, notamment pour empêcher le débarquement d'une force amphibie russe sur des plages au sud-ouest d'Odessa, qui semble-t-il était assez propice à une opération amphibie.
Alors ça, c'est aussi bien pour... Parce que vous distinguiez deux types de mines, vous disiez donc par exemple des mines anti-chars ou des mines composées sur le fond. Donc celle-ci, c'est clairement pour empêcher un débarquement. Mais donc les mines à orin auraient le même but aussi, mais simplement dans des endroits différents.
Bah, théoriquement, quand un mine de protection est mouillée, et c'est ce qu'ont voulu faire les Ukrainiens, on établit un plan de minage, de telle manière que le jour où on veut le supprimer, on retrouve plus facilement les mines. D'ailleurs, c'est un enjeu à la fois terrestre et maritime. Là, typiquement, dans le cadre du trafic économique qui a été rétabli, il a fallu, en tout cas, pouvoir disposer d'un corridor dénué de toute mine, Donc je pense que les Ukrainiens ont soit ouvert ce corridor, soit ont disposé déjà d'emblée, permettant le trajet du trafic maritime. Parce qu'il faut bien savoir que dans ce contexte de minage de la mer Noire, au-delà de la menace que ça fait peser sur les forces militaires, mais qui, elles, ont tendance à naviguer largement au large et très loin des côtes ukrainiennes, la menace pèse surtout sur le trafic des bâtiments de commerce qui, naguère, réalisaient de nombreux allers-retours pour commercialiser le céréal d'Ukraine.
Si je comprends bien, au final, une mine se pose principalement, enfin, ou alors exclusivement peut-être même, on va dire dans une certaine frange littorale, mais jamais en haute mer.
Alors on ne sait pas si dans le cadre du minage qui a été réalisé par les Ukrainiens, des mines de fond ont été posées. Donc des mines de fond, ce sont, comme leur nom l'indique, des mines qui reposent sur le fond et qui sont déclenchées par stimulation de différents capteurs, des capteurs acoustiques, des capteurs électromagnétiques ou des capteurs sismiques. On ne sait pas si les mines de ce type ont été mouillées. Les deux preuves qu'on a pu récolter sont le type de mine que j'évoquais tout à l'heure.
Mais donc ce type, ce que vous évoquez, les mines de fond, elles peuvent être posées en haute mer.
Oui, jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Oui.
Alors dans ce cas-là, elles peuvent être déclenchées sur même quelque chose qui passe en surface, même si elles sont à plusieurs centaines de mètres de profondeur ?
Absolument. C'est une quantité d'explosifs qui est très largement, très sensiblement supérieure à ce que renferment des mines à orin. Les mines à orin, c'est quelques dizaines de kilos. Une mine de fond, c'est plusieurs centaines de kilos. Et donc le principe, c'est d'exploser au passage d'un navire et de briser la poutre maîtresse de la coque. Donc de faire couler.
C'est-à-dire que il y a une quantité telle d'explosifs que même plusieurs centaines de mètres plus haut, l'effet est toujours suffisant pour...
Oui, vous jouez sur le caractère incompressible de l'eau, et donc vous générez une bulle.
Ah d'accord, en fait c'est pas l'explosion en elle-même, mais la bulle qui sera générée qui va...
Absolument.
Amiral, sait-on quel type de mines ont été utilisées ? Est-ce que cela permet d'identifier leur origine ?
En l'état actuel de nos connaissances, on n'est pas en mesure de certifier l'origine de ces mines. Les Ukrainiens ont reconnu qu'ils avaient mouillé un champ de mines de protection au large de leur côte. Il est possible que certaines de ces mines aient brisé leur chaîne, et qu'ensuite effectivement elles aient dérivé. De là... il y a une alternative. Soit ces mines dérivant en surface sont neutralisées par un dispositif hydrostatique que renferme la mine, conformément aux conventions internationales, auquel cas elles sont inoffensives. Soit elles restent offensives, comme ça a été le cas pour plusieurs de ces mines, puisque certains bateaux ont été touchés, ont été heurtés par ces mines en surface. Donc c'était des mines qui étaient encore armées et en contradiction avec les conventions internationales. Après, qui les a mouillées ? Il se trouve que ces mines sont d'origine soviétique. Donc, s'agit-il du stock russe ou du stock ukrainien ? Un jour viendra où les enquêtes internationales permettront de caractériser précisément l'origine de ces mines.
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, au final, les mines utilisées par les deux camps sont des mêmes modèles ou sensiblement identiques.
Ce sont les mêmes.
Mais alors, si pour revenir à ce que vous disiez, donc pour les mines à orin, ce système qui est censé les désarmer, comment est-ce que ça fonctionne ? C'est-à-dire que si le système détecte que la mine dérive, elle est censée se désarmer automatiquement ?
Non, c'est tout simplement un capteur hydrostatique, donc c'est en fonction de la profondeur. En deçà d'une certaine profondeur d'immersion de la mine, elle se neutralise.
En deçà, vous voulez dire quand elle revient plus près de la surface ?
Exactement.
J'imagine que si elle brise ses liens, elle va forcément remonter à la surface, et c'est à ce moment-là qu'elle va...
Et que théoriquement, elle se neutralise. L'autre dispositif, et on l'a constaté sur certaines mines, qui permettait de neutraliser la mine, c'est que tout simplement certaines d'entre elles ont été mouillées avec leur cache-corne. C'est-à-dire que les protections sur les cornes de déclenchement de la mine étaient encore à poste.
Alors elles sont censées ne pas fonctionner dans ce cas-là ?
Absolument. Elles sont neutralisées. Et les toutes premières mines qui ont été retrouvées disposaient encore de leur cache-corne à poste, qui illustre peut-être soit une méconnaissance du fonctionnement de ces mines au moment du mouillage, donc c'est un problème de formation, soit effectivement peut-être que ces mines ont brisé la chaîne qui les retenait entre deux eaux, mais que le cache-corne avait été oublié au mouillage. En tout cas, elles étaient neutralisées.
Oui, c'est un petit peu comme si on oubliait d'enlever la sécurité sur une arme avant de l'utiliser.
Exactement.
Alors justement, Amiral, comme vous l'évoquiez, des mines dérivantes ont été trouvées en plusieurs points de la mer Noire, même parfois très loin de la zone du conflit. On a pu évoquer une tempête qui aurait brisé les câbles fixant les mines, ou bien une intervention humaine. Est-ce que les deux options sont possibles ?
Oui, les deux options sont envisageables. Alors le fait que les mines brisent leur chaîne est indépendant de la volonté humaine. En revanche, le fait de mouiller délibérément des mines en surface est en contravention avec les, les conventions internationales. Donc c'est une violation du droit de la guerre.
Qu'est-ce que vous appelez mouiller des mines en surface ?
Bah, c'est tout simplement de mouiller ce que j'appelais tout à l'heure le ballon, c'est-à-dire simplement le flotteur. C'est une boule d'acier dans laquelle vous avez une partie composant dans sa partie inférieure normalement l'explosif et toute la partie supérieure est vide, donc contient de l'air. Et c'est ce qui lui confère sa flottabilité.
C'est-à-dire qu'une mine, pour ne pas contrevenir aux lois de la guerre, doit être fixe, elle ne peut pas être dérivante.
Absolument.
Donc c'est le principe de... C'est le fait qu'elle dérive, en fait, qui est...
Qu'elle dérive et qu'elle ne soit pas neutralisée en surface.
Oui, au final, on accepte le fait qu'une mine soit à un tel endroit pour protéger tel endroit. Par contre, le fait qu'on puisse la laisser...
On la contrôle plus.
Exactement.
On la contrôle plus. Et dans un contexte où vous avez du commerce maritime, donc avec des navires civils, soit des bâtiments de commerce, soit des bateaux de pêche, c'est en contravention avec les lois de la guerre.
Oui, bien sûr, parce qu'ensuite, elle ne pourra pas faire la distinction entre une coque militaire ou civile. En mer, quel est le vrai danger de ces mines dérivantes ? A-t-on connaissance de collisions avec des mines pour des bateaux de commerce ou de pêche ? Est-ce qu'on sait si des pêcheurs turcs, roumains ou bulgares craignent d'ailleurs ce danger ?
Alors, plusieurs bâtiments de commerce ont été touchés par ces mines, soit à la dérive, soit des mines qui étaient effectivement entre deux eaux, donc et que ces navires de commerce ont heurté au passage. Et puis il y a également eu, à ma connaissance, il y a également eu un dragueur de mines roumain qui a été touché par une mine qui, elle, était en surface, donc qui n'était pas neutralisée et qui a explosé au contact du dragueur de mines.
Alors, à l'image de ce qui se passe à terre avec les mines antipersonnelles, dont la menace persiste bien après la fin des combats, la menace des mines navales risque-t-elle de persister en mer ?
Alors justement, il semblerait que des mines destinées à faire peser une menace sur une éventuelle opération amphibie, donc des mines antipersonnelles, auraient été mouillées sur les plages ukrainiennes, puisqu'on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux de civils se promenant sur les plages qui ont explosé. Donc cette menace de mines antipersonnelles existe également sur les plages ukrainiennes et effectivement elle persistera après la fin des combats, à l'instar de ce qui se passe sur le champ de bataille et puis à l'égard également de ce qui se passe sous la mer. Donc il y aura tout un travail de déminage qui devrait être réalisé à l'issue de la guerre, mais tout simplement à l'instar de ce qui se passe sur les côtes françaises depuis maintenant 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc pour les mines non pas antipersonnelles posées sur la plage, mais par exemple les mines à Aurin, comme vous le disiez, au final, il y aura toujours ce risque de mines qui brisent leurs liens ou auront été oubliées ou n'auront pas été désarmées.
Alors c'est une menace qu'on sait traiter. Hein. On a dû la traiter au large de la Libye en 2011. Il y avait déjà des mines dérivantes, et d'ailleurs le même type de mines qui avaient été mouillées au large de la Libye. Donc on saura faire face avec nos chasseurs de mines. Mais en l'état, dans la mesure où les détroits turcs sont fermés, pour l'instant, on n'est pas en mesure d'acheminer des moyens de guerre des mines en mer Noire.
Il appartiendra donc aux belligérants de soit faire le travail eux-mêmes, soit de faire appel à des forces internationales pour les aider à traiter cette menace. Alors, Amiral, est-ce qu'on sait si des pays étrangers interviennent, soit par de l'aide, soit par des conseils, justement auprès des pays concernés ?
Alors, je ne suis pas en mesure de vous répondre pour ce qui concerne l'Ukraine. En revanche, on entretient de longue date des liens assez étroits avec les pays riverains de la mer Noire, Roumanie, Bulgarie. La Roumanie a une longue tradition de plongée avec laquelle on a des liens très étroits. Et depuis plusieurs mois maintenant et dans les semaines qui viennent également, on va réaliser des exercices de guerre des mines en Roumanie notamment.
Et alors enfin, Amiral, est-ce qu'on a tiré justement des enseignements de cette guerre des mines en Ukraine pour ce que l'on pourrait appeler la doctrine de l'emploi des mines ?
La situation en Ukraine et en mer Noire ne modifie pas radicalement nos connaissances et nos doctrines en matière de guerre des mines. Comme j'ai coutume de dire, on ne gagne pas une guerre avec la guerre des mines. En revanche, sans la guerre des mines, on peut la perdre. Et on illustre bien avec la situation en mer Noire la menace que fait peser la mine. C'est-à-dire que le trafic maritime est totalement bloqué. Bon, là, il est en plus doublé par la convention de Montreux sur les détroits turcs. Mais tant que des corridors n'auront pas été ouverts en mer Noire, on ne pourra pas rétablir un trafic maritime sur le rythme de celui qui existait avant la guerre. Donc le jour où le conflit s'achèvera, ou alors le jour où un accord aura été trouvé entre les belligérants, il s'agira de rétablir un trafic maritime dynamique au sein duquel il faudra forcément intégrer des capacités de guerre des mines pour guider ces bâtiments de commerce au travers de la mer Noire.
Oui, pour résumer, au final, sans composants de guerre des mines, on ne retrouvera pas de trafic maritime normal dans la région.
Absolument.
bien, merci beaucoup, Amiral, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et à nos auditeurs, je dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.